Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cet autre épisode d'Aux Premières Loges. Je pense que c'est la première fois de cette édition-ci qu'on est quatre aux Premières Loges, et on est quatre à couvrir trois matchs des séries de la Ligue nationale de hockey. Commencer par Tom, que vous connaissez bien, qui était là hier. Oli Guillet, qui est de retour avec nous pour un deuxième épisode cette édition-ci. Et nous avons un revenant qui est là pour son premier épisode cette édition-ci, Nicolas Charron. Comment ça va, les gars?
Ça va bien,
toi? Ça va,
ça va. Ça va pas.
Ça va bien, ça va bien. Du hockey, comme on le dit, c'est le meilleur moment de l'année, le printemps.
Effectivement, là. Effectivement.
Attends,
il y a le hockey, il y a le baseball.
Tom, il est pas sûr à cause que là, Arsenal s'est fait planter aujourd'hui. Que...
Bon. Ouais, c'est vrai, hein, pour certains. Mais pour ce qui est du hockey, certainement que c'est le meilleur moment de l'année.
Ça fait pas que... besoin de
là,
de,
en ce moment,
de dans le pied. Ça fait déjà ce moment d'homme.
T'inquiète, on va revenir au hockey, ça va bien aller. Fait que, voilà, on enregistre pendant qu'il y a déjà des matchs qui sont en cours, les Bruins et les Panthers en ce moment. C'est l'entraque entre la 2 et la 3e période. C'est 2-1 pour les Panthers présentement qui sont au bord du gouffre. Et il y aura une autre rencontre plus tard ce soir entre les Oilers et les Kings, mais... Allons sur les matchs.
Avalanche Kraken,
merci, excuse-moi. Allons sur les matchs d'hier maintenant. À commencer par Hurricanes Islanders. Les Islanders qui ont survécu, qui pouvaient se faire éliminer eux aussi hier. Mais finalement, ils ont allé chercher une importante victoire à l'étranger. Pierre Engvall, qui avait été acquis à la date limite des transactions, a marqué en premier. Brock Nelson aussi sur un tir qui a touché le visage de Sébastien Aho avant de retomber sur la palette de Nelson. Donc, un but quand même chanceux, il faut se dire. Paul Stachny réplique pour les Hurricanes. Matthew Barzal sur un 2 contre 1 fait 3-1. Et puis, trop peu trop tard, Sébastien Aho qui va marquer. Mais les Islanders remportent ce match 3-2. Et écoutez, les gars, j'ai pas bien étudié ce match-là, mais 36 tirs de la part d'Hurricane, je pense que Ilya Sorokin a un grand impact dans ce match-là. On peut commencer avec Tom.
Ben, les Islanders, c'est pas compliqué, mais ils méritaient pas de gagner ce match-là. Ouais. Ont été tellement chanceux. On s'entend. Le deuxième but, Nelson n'aurait sûrement pas marqué si c'était pas du fait que Aho a littéralement mangé à la puck. Et vraiment, Sorokin. Je pense que c'est Oli Guillet qui a parlé avant d'entrer en onde. Les Islanders, c'est littéralement le Canadien d'il y a 10 ans. Où est-ce que le gardien mène l'équipe où est-ce qu'elle va aller? Et ben, dans le cas des Islanders, Sorokin, tu sais, qui fait des miracles parce que les Hurricanes ont juste manqué de temps parce que c'était... C'est une question de temps avant qu'il marque le troisième but pour égaliser.
Ils ont manqué de temps et d'opportunisme aussi, il faut se le dire. Là.
Effectivement, oui. Aucun but en powerplay, en quatre opportunités. Tu souhaites capitaliser là-dessus également.
Oli, c'est toi qui as parlé de Sorokin avant qu'on entre en onde. Qu'est-ce que tu as acheté sur ce match-là?
Oui, mais c'est ça. Tu as dit qu'il manquait de temps. Ça, c'est un bon point. Là. À la fin, on voyait les Hurricanes qui auraient pu facilement partir avec le match. Là. Il manquait un peu de temps. Mais justement, une équipe championne est capable de gérer son temps et capable de compter. Islanders, ce qu'ils ont fait de différent, c'est qu'ils ont drivé le but. Puis, ils étaient vraiment dans la zone là, de Sorokin. Puis, ils étaient prêts à prendre le retour. Retour étant le visage d'Aho. But, j'en conviens. Mais comme, tu sais, ça reste que ce fut un match un peu plus de qualité de la part des Islanders. Ils ont s'en profité, ils ont bien lu le jeu, mais en effet, les Canes sont supposés gagner le prochain, sinon, écoute, on lance notre serviette puis on donne la série aux Islanders. Moi, je crois pas. S'ils gagnent pas le prochain, je pense que les Islanders vont partir avec la série parce qu'ils vont prendre le momentum. Puis voilà. Donc, le prochain, il faut que ce soit gagné par les Canes.
Toi, Nick, est-ce que tu penses que la série se finit au prochain match du côté de New York? Qu'est-ce que t'en penses, en fait? Puis qu'est-ce que tu penses du match?
Ben, écoute, les gars en ont parlé pas mal. Là. Je pense qu'au final, ouais. L'histoire du match, c'est Sorokin qui l'a écrit parce que T'sais, on fera pas une bagarre de gardien de but non plus, mais je pense que le premier but de Ranta, c'est pas nécessairement son meilleur. Je pense qu'il voudrait le revoir, là, le tir d'Engvall entre ses jambes. Pis, il a pas nécessairement été faible sur les buts, mais le premier, pas mal sûr qu'il voudrait le revoir, là, c'est...
Ouais.
C'est un arrêt que tu dois faire. Là. Pour une équipe qui veut se rendre jusqu'à la Coupe Stanley, qui ont des grosses aspirations, tu veux faire cet arrêt-là. Mais écoute, Sorokin a réussi à garder son équipe dans le match. Les Hurricanes ont frappé des poteaux aussi. Ils ont vraiment bourdonné. Il n'a pas été chanceux avec Ao qui a mangé à Puck, comme Tom dit. Puis, je pense au final, c'est une question de temps avec les Hurricanes qui passent les Islanders. Mais les Islanders ont un style de jeu qui est drainant pour l'autre équipe. Ils sont toujours agressifs à rondelles. Ils drivent le net. Ils sont toujours prêts pour des retours. C'est pas un style élégant, mais c'est un style qui fonctionne, qui peut t'amener loin. Ceci dit, malgré Sorokin qui joue très, très bien en ce moment, je pense pas qu'ils peuvent passer les Hurricanes. C'est un manque d'opportunisme un peu qu'il y a eu hier, mais ça reste qu'ils ont tellement de chances qu'à longue, ils vont finir par réussir à marquer plus de buts que les Hurricanes, que les Islanders. Il manque encore quelque chose aux Islanders, je pense, malgré le fait qu'ils ont rajouté quelques pièces qui est là durant la saison. Les Hurricanes sont trop bien bâtis partout, je pense, pour
ouais, équilibrer.
Il ne faut pas oublier aussi que Nesson s'est fait refuser un but par un offside. Techniquement, on va se le dire, les Hurricanes, il aurait pu au moins amener ça en prolongation, je crois, là, parce que oui, c'était un hors-jeu, mais ça ne change rien au fait que Nesson est allé backdoor et a fait un maudit beau jeu en powerplay. Mais voilà, fait que ouais, je pense que c'est une question de temps, en effet, comme tu as dit, Nick.
Mais oui, je suis très d'accord avec ce que vous avez dit. L'opportunité, je pense, c'est là-dedans, c'est un mot-clé, puis Sorokin, c'est l'autre. Là. Puis juste avant de passer au prochain match, là, des stats défensives, là, Nick, tu parlais du système de jeu des Islanders. 22 tirs bloqués pour les Islanders contre 4 seulement du côté des Hurricanes et ça inclut Ao avec sa tête. Fait que, tu sais, c'est 22 sur 4, là, ça montre l'efficacité défensive des Islanders qui, faut leur donner, jouent bien défensivement. Puis même si les Hurricanes ont clairement plus de punch offensif, sont plus capables de créer du momentum en zone adverse. Ben, les Islanders ont les armes puis on se sacrifie pour la course défensivement. Puis offensivement, ben, on a bénéficié de chance, c'est certain, et de manque d'opportunisme du côté des Hurricanes. Puis on a Elias Sorokin dans les buts, comme vous l'avez dit.
Mais ça dit beaucoup, tu sais, Oli, ouais, ce que tu viens de dire, 22 tirs bloqués, en plus des 36 qui se sont rendus au filet. Ça, c'est sans compter les tirs qui ont raté le but, qui n'ont pas été bloqués. T'sais. C'est quand même fou à quel point, quand tu regardes ça froidement, les Hurricanes ont vraiment été beaucoup plus dominants du côté offensif que les Hurricanes ont été plus dominants que les Islanders. Puis c'est le style de jeu que, bon, on en parlait un peu, là, ça ressemble aux Canadiens des bonnes années de Plekanec quand il était premier centre, mais ça reste que c'est pas un style de jeu qui est viable à long terme. À un moment donné, ça finit par te rattraper. Faut que tu crées plus offensivement, mais tu peux pas tout le temps être dans ta zone. Tu peux pas bloquer 22 tirs par match. À un moment donné, ça marche pas. Là.
Tu dis ça, mais quand même, les Islanders se sont rendus 2 années de suite en demi-finale, si je me trompe pas. Fait que quand même, ça a eu un certain succès quand même dans les dernières années. Mais
avec Trotz, ouais, mais essayer de faire le même jeu que qu'avec les Capitals, mais Capitals avait un certain Ovechkin qui était de la potée ouais, à chaque deux minutes.
Effectivement.
Fait que c'est ça le problème. Puis on dirait qu'ils ont encore suivi un peu cette mentalité-là, malgré que c'est la même époque.
Ouais.
Mais voilà.
T'as moins les joueurs efficaces que tu avais. Tu sais, on pense aux Islanders qui sont rendus en demi-finale. La quatrième ligne là, de Clutterbuck, Cizikus, Matt Martin était plus jeune, était encore plus efficace qu'elle l'est aujourd'hui. On avait, je trouve, plus de joueurs grinders qui levaient leur jeu d'un cran en série, à mon avis. On a peut-être moins ça. Tu sais, Borvat, il ne se lève pas, là, on va se le dire. Là, il ne s'est pas levé aucune fois là-dedans dans cette série. Barzal a fait des bons jeux quand même, mais bref. Je suis d'accord avec vous que c'est pas une équipe que je vois aller loin et surtout pas passer les Hurricanes. Fait que là-dessus, belle discussion, c'était bien fun. On va passer aux Stars contre le Wild. Cette série qui est très serrée, mais le match d'hier ne l'était pas vraiment parce que les Stars remportent ce match 4-0. Ça commence très mal pour le Wild avec une pénalité de match, un 5 minutes pour Marcus Foligno. Genou contre Radek Faxa. Faxa est sorti, mais est revenu plus tard dans le match. On en reparlera tantôt de ce que vous pensez de ce 5 minutes-là. Voilà, donc c'est Tyler Seguin qui a ouvert la marque en avantage numérique sur le 5 minutes de pénalité. Robertson et Ince ont des passes. Rupe et Ince, tout un match hier. Jason Robertson également marque un peu plus tard en première période en avantage numérique. Mason Marchmont en deuxième période, son premier des séries. Et finalement, Ty Dellandrea en fait des airs sur une passe notamment de Max Domi. Donc, les Stars qui mettent cette série 3-2 maintenant. Un match qui a complètement glissé des mains du Wild. Et je pense, entre autres, à cause que ça a commencé très mal avec la pénalité de Foligno. Parle-moi du match, Tom. Puis, si tu veux, tu peux me dire ce que tu en penses de ce 5 minutes-là sur Foligno.
Écoute, fait un bout que j'ai vu la séquence. Donc, je ne me rappelle plus exactement.
C'était hier quand même, là, ça
ne
doit pas faire une éternité.
Ben, écoute, je l'ai vu hier en regardant le match, mais je n'ai pas été voir une reprise ou whatever. Mais le feeling que j'ai eu, c'était mérité. D'après moi, va être suspendu également pour un match, peut-être lui aussi. Mais pour revenir au match en tant que tel, je pense que les Stars. En fait, on n'a jamais été vraiment inquiétés. Le Wild qui manquait un peu de sentiment d'urgence, même après le premier but. On n'a pas été capable de vraiment générer quoi que ce soit lors du match. Vraiment, le Wild n'était pas là.
Nick, est-ce que tu abordes dans le même sens?
Ouais, ben premièrement, écoute, j'ai vu, on va revenir sur 5 minutes là, tu sais, je pense que il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais personnellement, ça reste que un jeu comme ça, c'est hyper dangereux, t'as pas le choix de l'appeler, puis c'est malencontreux, puis souvent les jeux comme ça, au final, le gars veut pas y aller genou contre genou là, tu sais, c'est un peu de la malchance, mais ça reste que, écoute, je pense que t'as pas le choix de l'appeler, puis si tu veux pas que ça s'envenime, puis écoute, tu sais, tu regardes ça à vitesse réelle, puis c'est quand même dangereux. Tu n'as pas le choix de donner un 5 minutes sur moi. Peut-être un match. Mais écoute, je pense que c'était le bon call à faire, personnellement. Désolé. Puis pour ce qui est du match, écoute, c'est un match un peu, comme Tom l'a dit, c'est un peu un match à sens unique. On dirait que le Wild se sont présentés physiquement, mais pas mentalement. C'est des erreurs que tu dois pas. Tu ne dois pas accorder des chances comme ça dans un match à une série qui est 2-2. Tu joues pas à domicile. Fait qu'en plus, tu essaies de garder le jeu serré et que ça s'est mal passé. C'est sûr que 5 minutes au début du match te coupe les jambes, mais tu peux pas faire ton match au complet là-dessus. T'sais, ça reste qu'il y a 50 minutes que tu as à jouer dans ce match-là. Écoute, moi, je pense que le Wild était tout simplement pas prêt, puis ils ont pas réussi à se remettre dans le match après la pénalité de match à Foligno. Fait que là, en ce moment, ils ont pas le choix de se retrousser les manches pour le prochain match parce que, évidemment, c'est do or die. Mais écoute, moi, je pense qu'au final, les Stars est une meilleure équipe que le Wild présentement, puis c'est eux qui devraient passer. Je pense pas que le Wild va réussir à renverser la vapeur, personnellement.
Ali?
Ouais, ben moi, les Stars, c'est mes favoris. Je l'ai dit au dernier podcast que j'étais là. Ça, c'est sûr et certain. Mais le Wild, je ne sais pas ce qui va leur manquer pour devenir une équipe comme d'excellence dans la NHL. Ils sont tout le temps bons, mais est-ce que je ne sais pas c'est quoi qu'il leur faudrait pour avoir la petite touch de plus et être comme non seulement intéressant à regarder. Oui, je les aime mieux que les Islanders, mais il manque quand même une petite touche, autant à l'attaque qu'à la défense. Tu sais, au bout de la ligne, le Wild a 27 minutes de pénalité.
Oui, c'est énorme.
Mais ils ont quand même fini. Au début, c'est Dallas dominait d'un tir.
Mais
c'était 7-0.
Mais il y a eu un 15 minutes que c'était Foligno, par contre.
Mais en tout cas, bref, malgré que tu enlèves le 10 minutes, ils sont quand même à plus de minutes de pénalité, mais dont un 5 minutes au début. Puis c'est ça qui a fait qu'il a brisé les jambes. Puis que c'était 8 tirs à 0 pour Dallas en début de match. Mm-hmm. Mais c'est ça. Tu sais, Oettinger a connu un solide match. Je regarde mes petites notes. Puis, je ne sais pas, vous avez vu aussi l'ambiance à Dallas dans la foule. Sur un power play, toute la foule est debout. T'sais, c'est quand même intéressant de voir ça, un match à Dallas, alors que comme les Rangers, Texas, qui ont commencé leur saison, Tu sais, je veux dire, il y a d'autres choses à Dallas d'intéressant que le hockey, là. Fait que ça, je trouvais ça cool aussi. Là. C'est vraiment, il y a un vibe à Dallas en ce moment. Il y a une fièvre des séries. Puis go Stars go, là, c'est sûr qu'ils vont essayer de percer ça. Puis le Wild, ben oui, ça va partir. Là. Ils ont été déclassés, je trouve.
Fait que toi, tes voix gagner la coupe, les Stars?
Ah, 100%. J'ai vu aller loin parce que je pensais pas ça au début, mais là, comment qu'ils jouent, t'as-tu vu Séguin contre un but des plus peinards devant le filet? Puis écoute, il y a de l'art d'avoir gagné la Coupe Stanley à chaque fois qu'il fait un bon jeu. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est le fun de voir une équipe de même. T'sais.
Mm-hmm. Ben, en tout cas,
mais, ouais, vas-y, Tom. Wild aussi, ce qui n'aide pas, c'est que présentement, il est Kaprizov.
Kaprizov, un point en 5 matchs.
Ils sont bas. Ils sont bas 100%, clairement. Là. Kaprizov, on se rappelle, c'est blessé en fin de saison. Pour moi, il n'est pas à 100%. Là, parce que le Wild est en droit de s'attendre à mieux de Kaprizov. Puis un point, c'est pas assez, puis c'est pas normal non plus.
Ben, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Tom. Kaprizov, là, c'est ton joueur de franchise, c'est le Wild du Minnesota. C'est lui que t'as versé toute ta banque, là, ta petite banque, ta banque de cochon, tu l'as versé puis pour sortir l'argent pour le payer. Là. Fait que genre, il y a un point en 5 matchs pour ton joueur de franchise, c'est pas acceptable en série éliminatoire. C'est lui. Puis quand même, le Wild a réussi à gagner 2 matchs dans cette série-là. Fait que ça prouve qu'ils ont quand même une certaine profondeur. Ouais. Mais il doit en faire plus, le Kaprizov. Puis moi, j'en parle depuis le début des premières loges cette année, là, mais la défense du Wild ne me convainc pas quand je regarde l'alignement. Là. Klingberg a fait du bon travail offensivement, mais il va pas t'aider défensivement bien. Middleton, j'ai pas une grande confiance. Dumba en a perdu. Fait que, tu sais, je doute du Wild beaucoup. Puis moi, je pense que ça. Même si le prochain match est au Minnesota, puis Oli en a parlé, l'avantage de la foule a clairement une différence. Là, mais d'après moi, ça se finit au prochain match. Mais quand même, Minnesota.
Ils sont pas finis. Là. Ils vont jouer un astic de gros matchs. Mais c'est juste que ils jouent bien en unité. Puis ce qui va faire la différence, c'est ce que Kaprizov sort ses highlights qu'on a vu depuis je ne sais combien de temps. Mais là, c'est ça, c'est pas le cas. Puis tu sais, il y a rien qui sort du lot du côté du Wild. Gustavsson n'a pas connu un mauvais match non plus. Là. C'était quand même.
Je veux dire,
l'autre équipe, l'autre bord, c'était partout devant le filet. Là. C'était des gros gars. On va voir le prochain match, mais c'est pas fini. Mais Dallas est dans une bonne lancée.
Puis Matt Boldy, c'en est un autre qu'on ne voit pas dans cette série-là, là, tant qu'à moi. Là. Fait que, il y a des joueurs du côté du Wild qui devraient se lever s'ils veulent avoir la meilleure chance de remporter le prochain match. Tom, tu voulais dire quelque chose?
Oui, c'est ça, avant de passer au prochain match. Ouais. Par exemple, des joueurs qui se sont levés pour les Stars, Tyler Seguin, ouais. Qui a profité de l'absence de Palessi en vraiment 4 buts une passe pour l'instant. C'est autant de buts, en fait, que Seguin a marqué dans les deux dernières présences en série éliminatoire des Stars. Puis là-dedans, tu as une présence en finale de la Coupe. C'est pour vous dire à quel point que Seguin il fumait cette année. Vraiment, chapeau à lui.
Tout à fait. Puis tu parles de Seguin, mais Ben a connu une bonne saison, puis a quand même des séries correctes. Robertson va bien, Ace Cannon va bien, Pavelski pourra bientôt revenir, et Rupe Hintz est le meilleur pointeur des séries présentement, en tout cas en date des matchs d'hier, là, si on oublie les matchs aujourd'hui, était le meilleur pointeur hier quand j'ai regardé les stats, devant Leon Draisaitl, fait que c'est pas rien. Là. Donc vraiment, les Stars, je suis quand même d'accord avec toi, Ali, qu'ils pourraient se rendre très loin, mais voilà, ils vont
juste commencer.
Ouais, vas-y.
Il faut qu'ils gardent le rythme, en fait. T'sais, c'est quand même, tous les gars que tu as mentionnés là, c'est pas non plus des jeunes superstars. Là, il y a quand même des gars un petit peu plus âgés là-dedans, je pense à Ben. Ces gars, il n'est pas vieux, mais il y a quand même beaucoup de millage. Ces gars-là, s'ils peuvent performer de même en série, utiliser leur expérience, ils peuvent aller loin. Il faut juste qu'ils soient hyper constants. T'sais.
Exact.
Voilà. Un peu comme le Lightning qu'ils devront faire aussi pour le reste de la série et pour le reste, s'ils veulent se rendre loin.
Tout à fait. Nick, tu voulais-tu ajouter quelque chose pour cette série ou on passe à la dernière?
Écoute, je pense que les gars ont pas mal fait le tour. Là.
Est-ce que tu penses que ça se finit au prochain match?
Honnêtement, je pense que oui. Je pense que c'est le genre de match Le Wild, j'en ai parlé, ils n'ont pas été capables de revenir dans ce match-là mentalement après ce qui s'est passé au début avec la pénalité majeure. Puis je pense que c'est des signes que, en plus que tu as des gars comme Kaprizov qui joue pas en ce moment, on dirait, puis Boldy qui a de la misère malgré qu'il a 3 points, et que je vois pas comment ils peuvent passer les Stars. Je pense que les Stars sont tous sur une lancée. Le prochain match, ça se finit.
Moi, j'ai une question pour vous autres. Pour mettre un petit peu de piquant dans tout ça, c'est qui devant le but du côté du Wild? Est-ce qu'on met Fleury prochain match?
On revient avec Gustafsson, moi, je pense.
OK, c'est ça, moi aussi. Mais tu sais, en même temps, t'as un gars qui a gagné le... Il a gagné le... Voyons, ouais. Le Vizina, il a 2 ans? C'est quand même fou, ouais, là. Tu sais, il faut que... En tout cas, moi, je dis ça de même. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire.
Écoute, je serais pas surpris de voir Fleury parce que Gustafsson, je pense que les Stars l'ont trouvé lors du dernier match. Puis on sait que Fleury, ça n'a pas été gagnant lors du deuxième match. Mais écoute, des fois, ce que ça prend, c'est un changement d'air. Hein. On a juste pensé à Alain en 2010. Hein. Puis où est-ce que ça a mené?
T'sais, Fleury n'a pas gagné un gros match au deuxième match, mais ça reste que c'est le genre de gars que j'ai 100% confiance que si tu le ramènes dans la série, il va rebondir. T'sais, c'est un gars qui a vraiment prouvé qu'il est capable de le faire. Puis, Gustafsson, OK, maintenant, c'est rendu pas mal le premier goaler du Wild, mais ça reste que je pense dans la situation qu'ils sont, ils n'ont rien à perdre de ramener un Fleury, tandis qu'un Gustafsson, c'est un petit peu plus une boîte à surprise.
Mm-hmm. Ouais.
C'est un bon point que Fleury, niveau expérience, certainement qui peut aider le Wild. Ça va être à voir au prochain match qui sera le gardien partant. Maintenant, allons-y du côté de notre dernière série à couvrir. Les Kings contre les Oilers. Les Oilers mènent maintenant cette série 3-2 puisqu'ils ont remporté le match hier. Et moi, c'est un peu ce que j'attendais depuis le début de la série, ce qu'on a vu du côté des Oilers, c'est-à-dire... marqué plusieurs buts. T'sais, on a vu des 4-5 buts peut-être, mais prendre rapidement l'avantage avec un gros écart comme ça, assez tôt dans le match. On n'avait pas vu les Oilers le faire encore, selon moi. Là. Puis là, on a vraiment vu le punch offensif, puis d'être capable de fermer un match avec un trop grand écart, ce que les Oilers sont capables de faire souvent en saison régulière, qu'on n'avait pas encore vu. Fait que ça commence avec Evander Kane, qui marque un avantage numérique en première période. Leon Draisaitl, déjà un 6e but pour Draisaitl dans ces séries-là, fait 2-0. Aya Follow fait 2-1. Brett Kulak, ancien du Canadien de Montréal, bien entendu, fait 3-1. Adrian Kempe fait 3-2. Déjà 4e but pour Kempe dans ces séries. Fait qu'après la première période, c'était quand même assez serré. Mais ensuite, là, ça a vite tourné du côté des Oilers. Bjugstad fait 6. Bjugstad en deuxième période. Hyman en deuxième période également, qui lui aussi a été atteint par la rondelle, tout comme M. Aho. Et lui, il a même dévié dans le but avec son menton. Fait que bravo, là, c'est quelque chose qui est très rare, j'imagine. Et ensuite, Bjugstad en 3e et trop peu trop tard, Quentin Byfield va faire 6-3. Même question que pour les autres séries, les gars. Est-ce que cette série-là se termine à Los Angeles au prochain match? On peut commencer par Olivier.
Ouais, écoute, je ne pense pas. Je m'explique. Ça va être LA, mais quand même, je sais pas, Kempe, là, je le trouve excellent, ce joueur-là. Il est capable de changer un match à lui tout seul. Il le prouve. Il va coûter cher. Je sais pas, il est rendu où dans son contrat, là. Je pense qu'il est toujours à signer ou il en reste encore pas mal. Bref, Korpisalo, qui a fait des immenses arrêts au début. C'est juste que Draisaitl, il est beaucoup trop fort. Il est trop fort pour la Ligue. Genre, il réussit à compter, à créer des jeux. Si on le contient, prochain match, je pense que LA pourrait surprendre et ramener ça en 7 éventuellement.
Tom?
Je suis d'accord. Moi, je pense que les Oilers vont l'apporter en 6. Je pense qu'avec la performance d'hier, ils ont le momentum. Puis si les arbitres sont de bord comparativement au début de la série, hein, puis que Vince soit content ce coup-ci, les Oilers devraient l'emporter assez facilement, je pense.
En passant, Adrian Kempe, là, avant que je te donne la parole, Nick, Adrian Kempe, c'est 5,5 millions par année, puis il a signé son contrat son contrat l'été dernier. Donc, c'est une bonne aubaine quand même, 5,5 millions. Donc, en fait, c'est très, très bon là, avec un gars qui
bravo. Se
par année et qui est efficace dans même.
Bravo aux Kings. Combien de temps, ouais, sais-tu?
C'est jusqu'en 2025-26.
Ah, encore bon,
un bon.
Une couple de belles années.
Oui.
C'est bien.
Nick?
Ben écoute, moi je pense que ça va se rendre dans cette match, mais okay. Je pense que les Oilers vont finir par gagner quand même. Parce que, écoute, avec le punch qu'ils ont en attaque, est-ce que les Kings peuvent tenir encore un match? Je pense que oui. Mais les Oilers ont trop de punch à l'attaque pour pas passer. Écoute, les Kings me surprennent beaucoup. Puis, tu sais, déjà l'année passée, on l'avait vu aussi qu'ils étaient capables de tenir tête aux Oilers, mais. Écoute, je pense que ça va se jouer sur justement qui est capable au final de débloquer offensivement puis marquer un petit peu plus. Puis on a vu les Oilers là, justement au dernier match hier qu'ils sont capables de prendre le step de plus pour vraiment débloquer offensivement. Ils ont les joueurs pour, évidemment, ça, personne s'en cache. Là, fait que je pense qu'ils vont réussir à passer, mais je veux en parler un petit peu dans le futur, je pense encore que les Oilers leur manquent. De quoi, surtout défensivement, là, en avant du but, ils n'ont pas encore l'équipe pour se rendre au bout. T'sais. Offensivement, c'est bien beau, mais ça te prend aussi de la défensive. Puis je persiste à croire que un gars comme Darnell Nurse qui est payé 9,5 millions, c'est beaucoup trop. Puis...
Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure.
On est tous d'accord là-dessus.
Ça va être difficile vraiment d'aller chercher quelque chose avec ce contrat-là, entre autres, là, parce qu'on sait, tu as des gars comme Draisaitl, McDavid. Ils sont payés super cher. Puis oui, ils te rapportent beaucoup, mais ça reste que ça prend des gars aussi quand ils sont pas sur la glace. Mais le peu de fois qu'ils sont pas sur la glace, que ça te prend d'autres gars aussi qui peuvent tenir le fort. Là. Fait que, mais je pense que ça va être assez, ceci dit, pour passer les Kings en première
ronde. Tu parlais de Draisaitl, juste mentionner la statistique complètement folle. C'est lui qui a le meilleur ratio de points en série éliminatoire, en fait, devant Wayne Gretzky. C'est absolument phénoménal là, comme statistique. Là. Draisaitl, ça a été ça. Là. Il y a des meilleures statistiques que McDavid en série pour les Oilers. Et encore une fois, dans cette série-là, déjà 6 buts, je ne sais pas il est à combien de points, là, mais un point en dessous de Rupe Hintz. C'est incroyable de son côté. Puis, tu parlais de la défense des Oilers. Je suis d'accord que Vincent Dernais connaît une série très difficile, mais avec l'ajout de Mathias Ekholm, avec Evan Bouchard qui joue bien, bon, Darnell Nurse, on sait tous que son contrat n'a pas aucun sens, mais qui est quand même capable de jouer plusieurs minutes. Je trouve que les Oilers se sont améliorés en défense. Je ne dis pas qu'ils vont gagner la coupe loin de là, là. Mais tu penses aux Penguins, c'était en 2017. Je pense que leur défense était juste exécrable et qu'ils ont gagné la coupe pareil, là, avec un Ben Lovejoy qui jouait énormément trop. Là.
Ouais, Trevor Daly également.
Ouais, des gars de même là, que le temps était blessé, si je ne me trompe pas. Là. Écoute, je pense que c'est faisable de gagner la coupe avec une défense qui n'est pas la meilleure de la ligue, surtout quand tu as une attaque comme ça. Mais je suis d'accord avec toi que je pense que cette équipe pourrait être meilleure, ça c'est certain. Ben, c'est sûr que tout le monde peut être meilleur. Mais parlant de défense, les gardiens sont un point très important de la défense. Jack Campbell avait fini la dernière rencontre et avait gagné, avait joué une bonne fin de rencontre. Mais on est retourné avec Stuart Skinner dans le dernier match. Ben, visiblement, c'était une bonne décision. Là. Skinner a quand même joué un bon match. Est-ce que vous auriez fait le même move, vous autres? Mettons Oli, si on veut aller avec toi.
Oui, parce que je trouve qu'il apporte, il est quand même pas vieux comme goaler. Là. Il amène un vent de fraîcheur, puis je trouve ça nice. Puis en plus, les gars, l'équipe adverse là, le connaît encore pas tant que ça. Donc, c'est peut-être une bonne carte cachée aussi pour apporter un petit... un petit vent de comment je cherche le mot, là. De surprise, un effet de surprise, ouais. Puis tu sais, vu justement que c'est un jeune goaler, il peut toujours te sortir une performance tout d'un coup extraordinaire, faire le gros save. C'est ce que Price a aussi fait dans son jeune temps étant très, très loin. Moi, j'aurais fait la même chose, à Lac aussi, mais là, tu sais, ouais, c'est ça, ouais, à Lac, c'est vrai, il était quand même aussi relativement jeune, donc... Oui, j'aurais fait le même move. Ouais.
Tom?
Ben honnêtement, c'est difficile. C'est difficile de dire quand tu fais le contraire quand ce move-là a payé.
Ouais.
Je suis d'accord, honnêtement. Skinner n'a pas connu des mauvaises séries. Là, même même dans le dernier match, il a connu une mauvaise période. Puis, à part ça, ils se sont réveillés par la suite. Honnêtement, je pense que c'était le move à faire, puis ça a payé.
Mais l'enjeu, c'était pas non plus immense. Les deux goalers ont quand même bien performé, relativement. Puis, tu sais, je pense que c'était le move à faire. Comme il n'y avait pas non plus d'autres décisions à prendre.
Jack Campbell avait bien terminé la rencontre. Fait que peut-être qu'on aurait pu lui faire confiance pour l'autre d'après. Mais je suis d'accord avec vous que je pense que c'était une bonne décision d'y aller avec Skinner, qui est ton homme de confiance cette saison, là, clairement. Là. Voilà, Nick, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur cette série-là? Ou le match, ou la série, peu importe.
Ben écoute, juste rapidement, là, je suis d'accord avec les gars. Je pense que, tu sais, Campbell, dans les séries, dans les dernières années, il n'a rien prouvé pas mal. Ben en fait, il n'a rien prouvé point. Là, je veux dire, il n'a pas été exceptionnel. On se rappelle contre les Canadiens, il avait joué les bons matchs, mais il n'a pas réussi à voler le match que ça prenait pour les Maple Leafs. Puis, tu sais, je pense qu'à long terme, t'es mieux de mettre tes espoirs en Skinner qu'essayer avec Campbell. D'ailleurs, c'est une signature que je comprends moyennement du côté des Oilers. Une autre signature que je comprends moyennement du côté des Oilers, mais en tout cas.
Mais écoute, si les Oilers sont rendus en finale de conférence avec Mike Smith et vu, il n'y avait pas besoin d'un excellent goaler non plus.
Non, je sais, mais je veux dire, ça reste que, selon moi, en tout cas, c'est. Sachant que tu as un gars comme Skinner qui peut faire la job, pourquoi signer un autre gars plus cher qui est reconnu potentiellement comme un gars qui peut faire la job? Selon moi, c'est pas assez, tu sais, pour mettre l'argent.
Ouais. Mais peut-être parce qu'on savait pas que Skinner allait faire la job en début de saison. Là,
peut-être. Mais ça reste 5 millions, je trouve ça cher pour qu'est-ce que Campbell est. En tout cas, mais ça, c'est un autre
d'accord. Je suis d'accord avec toi.
Je veux juste revenir rapidement sur ce que tu as dit tantôt, la comparaison entre les Oilers et les Pingouins de 2017.
Ouais.
Moi, je pense que la grosse différence, je suis très d'accord avec toi, le niveau défensif, c'est pas fameux des deux côtés, même si...
Puis même que les Oilers, c'est meilleur là, que les Penguins de 2015.
Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi.
Ouais.
Mais écoute, moi, je pense que la grosse différence, c'est que t'as tes leaders qui, surtout avec un gars comme Crosby, je pense que Crosby, McDavid aurait beau mettre 200 points au tableau, jusqu'à présent, il m'a pas prouvé qu'il était complet. Puis surtout que son style de jeu se taillait bien aux séries. Je trouve qu'il manque l'aspect de... C'est beau, tu as 8 points en 5 matchs, je pense, à date, mais faut que tu sacrifies aussi défensivement. On l'a vu, je pense, justement, c'est au match d'hier qu'à un moment donné, c'est lui qui perd son homme, puis il marque tout de suite après.
Ouais.
C'est le genre de petits jeux, de petits détails que tu prends un but de plus qui peut renverser complètement la balance, puis tu dois être allumé défensivement parce que c'est beau aller marquer, mais si tu fais marquer un autre but, tu restes even. T'sais. Fait que je pense que c'est l'edge qu'un gars comme Crosby, même un gars comme Malkin, a, ben, on sur Draisaitl puis McDavid encore. Puis Draisaitl, on a parlé de ses points, mais je pense que en général, à date, j'aime mieux son jeu en série que McDavid.
Ouais, je suis là-dessus. Il joue mieux défensivement aussi, Draisaitl.
Exact. Fait que je pense que McDavid doit catcher cette partie-là parce que justement, en plus qu'il n'y a pas une excellente défensive, faut que ton jeu en défensive soit impeccable pour pouvoir l'attaquer. Attaquer après, ça ne sera jamais un problème pour McDavid, mais faut que le jeu dans ta zone soit impeccable, surtout que tes gardiens et ta défensive n'est pas excellente. Puis c'est le genre de petit détail que Crosby était excellent pour faire, qui a réussi à amener son équipe aux grands honneurs, tandis que McDavid, jusqu'à présent, il n'a pas prouvé qu'il est capable de le faire encore.
Puis surtout, là, prochaine ronde, ça serait contre... Ben, je pense que Vegas va sortir de la série contre les Jets. Vegas qui connaît, je pense qu'il y a une équipe beaucoup plus hermétique, beaucoup plus complète que les Kings. Donc, si McDavid veut stepper up, comme on dit, il va falloir qu'il puisse mieux performer à la défense. Puis, j'aimerais tellement ça, par contre, qu'il passe Vegas pour aller contre les Stars, peut-être en finale de l'Ouest. Ça serait toute une série offensive.
Attention à l'Avalanche, il y a un remake de l'an passé.
Oui, je sais, mais l'Avalanche...
Le Kraken, est, en tout cas, à date, c'est égal. Fait que
juste le fait que Kraken a deux matchs, ça me montre que l'Avalanche ne passeront pas mes chers Stars. Donc,
c'est ce qu'on va voir dans les prochaines rondes. On va commencer par finir celle-ci. Mais juste pour finir ce que tu disais, Nick, tu as totalement raison qu'on va toujours pas douter, mais critiquer un peu McDavid, comme on l'a fait avec Ovechkin jusqu'à ce qu'il remporte sa coupe. T'sais, tant qu'il n'aura pas gagné, comme on l'a fait avec McKinnon aussi avant l'an dernier, quand il n'aura pas touché le Graal, le sommet, qu'il n'aura pas remporté une coupe cette année, ramener les grands honneurs à Edmonton, on va toujours, ben, avec raison, on pourra le critiquer un peu, notamment sur son aspect défensif. Fait que les gars, c'était une très belle discussion sur les trois derniers matchs. Il y a du hockey à aller voir dès ce soir. Fait que Tom, Nick et Oli, merci beaucoup de votre temps.
Merci à toi.
Grand plaisir.
Yes. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode d'Aux Premières Loges. Salut.